Tu règnes à jamais. Ton règne n'a pas de fin. Tu es éternel. Et nous te célébrons, Seigneur. Ce moment est à toi. D'ailleurs, tout le temps, c'est pour toi. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses ta parole, que tu bénisses l'instrument par lequel, Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Rends-nous attentifs à ta voix. Et bénis ces instants, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, nous connaissons le visage pâle qui est derrière moi, n'est-ce pas? C'est notre sœur, pasteur Rebecca Moore, qui est directeur de l'Institut biblique à Kisangani. Et il est ici pour nous aider à l'Institut biblique de Kinshasa et à la FATAT. Et je lui ai demandé de nous apporter la parole de Dieu ce matin. Vous savez que c'est une bonne prédicatrice, n'est-ce pas? Nous lui laissons toute la place et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus.
Bonjour à tous. Bon, je ne sais pas si je suis toujours une merveilleuse prédicatrice, mais je sais que toujours mon papa a quelque chose à dire. Et toujours les messages les plus forts, on a parlé de ça même le soir, ce sont les messages que d'abord Dieu a prêché à nous. La fin de l'année 2025, j'étais dans un culte de prière. Je crois nous tous, tous les églises presque, on a eu des programmes de prière, n'est-ce pas? Même ici à la bannière. Et c'était un soir particulièrement, et c'était bien annoncé avant, c'était un soir pour chacun individuellement de présenter l'année prochaine devant le Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire dans l'année 2026? Seigneur, si tu veux que je le fasse, j'ai besoin de ton intervention dans ceci, dans cela, tout ça. Très bon thème, très bon moment. Le jeune frère qui a porté la parole, ce n'était pas le pasteur, c'était un de mes étudiants à l'Institut biblique qui a prêché. Et il a prêché sur « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Demander une chose de Dieu. Il a fait un très bon travail. Mais quand nous sommes allés à la prière, même pendant la journée, moi, j'avais préparé pour ce moment avec le Seigneur. Vous savez, on doit préparer avant de venir à l'église. Hein? Même si on est là, on doit préparer. J'avais pris un papier, j'avais commencé à écrire, Seigneur, cette année prochaine, j'ai besoin de voir ta main dans ceci, dans cela. J'ai commencé à écrire ma liste. C'était comme une étape de besoin pour le Seigneur. Et presque tout en relation avec l'Institut biblique. Il n'y avait rien de personnel. C'est pour ton travail, Seigneur. Et j'allais même amener cette liste avec moi à l'église. Et je l'avais oubliée dans mon bureau à l'Institut biblique. Tant mieux. J'arrive là-bas, je suis allée devant le Seigneur. Et j'ai écouté ce que le jeune prédicateur avait prêché clairement. Fait l'écho dans mon cœur de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Bon, Seigneur, je veux ceci, je veux voir ceci, je veux voir ceci. Non, qu'est-ce que tu veux? Une chose. Le cœur de tout, qu'est-ce que tu veux? Le passage qui m'est venu dans l'esprit, c'est le passage que je veux vous présenter ce matin. On va aller dans plusieurs passages, on va parcourir beaucoup la parole de Dieu ce matin. Mais notre texte principal vient des psaumes, hein? Chapitre 27 et verset 4. J'aime beaucoup votre thème pour cette année. Hein? C'est vraiment un très bon thème. J'ai dit, bon, je peux participer à ça sans aucun problème. Psaume 27. Commençons au début. Mais on va chuter à verset 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancèlent les tombes. Est-ce que j'ai même demandé ça? Non. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et David ne parlait pas métaphoriquement. C'était un homme qui a vécu presque toute sa vie. Israël, c'était dans un état de guerre. Il comprenait très bien ce qu'il disait. Il était possiblement, encore la datation de ces psaumes, c'est un peu flou, mais possiblement à l'époque de sa fuite devant Saoul. Il comprenait cette croix. Être entouré, être menacé, être poursuivi littéralement, physiquement par une armée. Mais il dit, je n'aurai aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Verset 4, c'est le secret. Je demande à l'Éternel une chose. J'ai beaucoup de besoins, j'ai beaucoup de situations, j'ai beaucoup de choses que je veux faire, même dans le cadre de l'appel. Mais une chose, c'est quoi le désir le plus profond du cœur? Que je désire ardemment. La chose pour laquelle tu es prêt à sacrifier tout. Tu es prêt à laisser toutes les autres choses. Jésus a raconté le parabole de cette perle des grands prix pour laquelle le marchand est prêt à vendre tout pour acheter. Pour David, il dit, les choses que je désire, ce n'est pas la provision, ce n'est pas la délivrance de mes ennemis. Ce que moi je veux, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous comprenez ça, c'est avant la construction du temple. Il ne parle pas d'un lieu physique. Même le tabernacle, à ce moment, c'était plusieurs kilomètres de la capitale. C'était même peut-être avant la prise de Jérusalem, on ne connaît pas exactement, mais ce n'était pas quand il y avait un temple. Le tabernacle physique n'était pas là. Alors, qu'est-ce que David est en train de demander? Seigneur, moi, je veux être dans le lieu où ta présence manifeste. Et il explique ça clairement. Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer le lieu de son demeure, littéralement. Le lieu de son demeure, son temple. Le temple n'était pas construit, mais le lieu où sa présence reste. Où Dieu est, c'est où moi je veux être. J'ai trouvé ça très intéressant parce que dans ma tête, mes excuses aux techniques, hein? Parce que j'ai écrit tout ça ici, mais c'est vraiment un désordre à l'écrit. C'est organisé dans ma tête. J'ai commencé à réfléchir sur le parcours de David. Qu'est-ce qu'il voulait? Dans toutes les époques de la vie de David, nous voyons le même désir. Nous voyons dès le début. Vous connaissez l'histoire? Qui connaît l'histoire de David? Où sont les lecteurs de la Bible? Je sais qu'à la bannière, on lit la Bible. Ah. Alors, David, il a commencé où? Il n'a pas commencé en train de chercher un poste de roi. Il a commencé le plus petit, le cadet de la famille, le benjamin de la famille. Sur le champ, dans la campagne, il n'était même pas avec les invités. Il était là pour prendre soin des bêtes, des moutons de son papa. Il était là et c'est dans ce lieu, dès le début, qu'il a commencé à développer sa relation avec Dieu. C'est dès le début que les cris de son cœur commencent à sortir, au point qu'il était connu comme quelqu'un qui jouait l'harpe, et il chantait bien. C'était quelqu'un qui pouvait amener la présence de Dieu par sa musique, la présence de Dieu s'éclatait. Il était même appelé au cours de Saoul. Pourquoi? On a besoin de la présence de Dieu ici. Dès le début, la recherche de David, c'était « Je veux être dans sa présence. » Et je trouve intéressant, à la longue de son parcours, j'ai pris seulement quelques exemples. Il en a beaucoup dans le livre des psaumes. Psaume 57. C'était aussi écrit possiblement lors de sa fuite devant Saoul. Et regarde le verset 1 et 2. Bon, 1, on commence avec 2 dans Louis II, pardon. Il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge. » Où? Ah, à l'ombre de tes ailes, Saul est en train de me poursuivre. En lieu de s'élever et commencer à faire des déclarations, en lieu de commencer à, non, Dieu m'a appelé, Dieu m'a oint, hein? Samuel lui-même il est venu, moi, Dieu m'a fait sortir d'entre mes frères. En lieu de soulever les croix, les gens de sa tribu, de Judas pour faire le combat contre les Benjamites et Saoul. En lieu de ça, il a dit non, non. Je cherche un refuge auprès de toi. Dès le début de son parcours, il disait ce que je désire, c'est la présence de Dieu. Quand je suis menacée, c'est dans la présence de Dieu que je veux me cacher. Je cherche refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Seigneur, c'est auprès de toi. Un passage que je trouve vraiment formidable dans la vie de David se trouve dans 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Il est en train de fouiller, cette fois-ci, pas devant Saoul, mais devant son propre fils, Absalom. Ça, c'est après son péché d'adultère, de viol, plutôt qu'adultère, de meurtre, qui a coûté la vie de beaucoup de soldats, des militaires, qui était une trahison contre son meilleur conseiller, Ahithophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Et lui-même, il était conscient que je ne suis plus digne d'être le roi sur le peuple de Dieu. Et je crois que cette culpabilité, c'est partie de la raison aussi qu'il devait seulement baisser la tête face aux bêtises de ses fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a demandé pardon de Dieu. Dieu lui a pardonné. Absalom maintenant se lève après, selon la prophétie que Nathan a donnée, l'épée ne quittera jamais ta maison. Son propre fils lève contre lui. Se lève contre lui et David maintenant En lieu de faire le combat, David, c'était un bon stratégiste militaire. C'était un bon général. C'était un homme de guerre. C'était un homme qui savait organiser les gens. Mais il n'a pas cherché dans ses propres qualités, ses propres capacités. Il a seulement quitté Jérusalem. Quitté Jérusalem. Et c'est ici où nous trouvons l'histoire de Samuel, chapitre 15. Et versets 24 à 26. Ce qui s'est passé quand David quitte le souverain sacrificateur Tsadok, le suit avec l'arche de l'Éternel. L'arche, c'était là même avant la construction du temple. Et Tsadok le suit avec l'arche. Et verset 24. Pardon, je dois mettre les lettres grandes et c'est un verset par écran. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et habitèrent montés pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais si Dieu dit, je ne prends point plaisir en toi, si Dieu a fini avec moi, ce n'est pas grave. Mais voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Parce que pour David, le cri de son cœur, ce n'était pas la royauté. Ce n'était pas la grandeur. Ce n'était pas le pouvoir. C'était, Seigneur, je veux te connaître. L'autre psaume qu'il a écrit avant ça, psaume 51, où il crie, c'est un cri de repentance, où il dit, Seigneur, prends tout. Si tu veux le sacrifice, je peux t'offrir des mille et des bêtes, et ça, ce n'est pas un problème. Si tu veux prendre l'enfant qui était conçu dans le péché, c'était mort. Tu peux prendre l'enfant. Je sais que je vais le voir encore. Ok, tu peux prendre l'enfant. Mais Seigneur, ne ôte pas ta présence de moi. Prends tout sauf ta présence. Prends le trône, prends la royauté, prends ma famille, que mes enfants prennent comme Absalom, qu'ils prennent le trône, ce n'est pas un problème. Mais ne ôte pas ta présence de moi. Parce que le cri de son cœur du fond dès le début, même face à l'échec, la menace la plus grande pour lui, ce n'était pas, quand il était tombé dans le péché, ce n'était pas que Dieu va ôter la royauté. Sa préoccupation la plus grande, c'était que Dieu ne ôte pas sa présence de moi. La royauté, c'est l'affaire de Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. S'il veut servir de moi, me voici. S'il a fini avec moi, tant mieux. Mais sa présence, ce n'est pas négociable. Et quand il arrive à la fin de sa vie, il n'était pas déçu. Regarde avec moi le livre de 1 Chroniques, chapitre 28. Il est en train de donner ses derniers conseils, d'abord à tous les chefs du royaume, mais particulièrement à Salomon, son fils. 1 Chroniques 28 et verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Le Dieu que moi je servais toute ma vie, en tombant parfois, mais relevant et continuant avec mon Dieu. Il est digne de ma confiance. Tous ces psaumes que j'ai écrits avant, de confier à l'Éternel, il est digne de cette confiance. Salomon, à ton tour, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Et c'est comme si David déjà a aperçu quelque chose dans la vie de Salomon, qu'il ajoute quelque chose. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Dieu n'est pas seulement intéressé au projet de la construction du temple qu'il faut que tu fasses aussi, hein? Mais Dieu regarde le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il regarde pas seulement le temple que tu vas construire, mais il voit la motivation derrière la construction de ce temple. Il ne voit pas seulement le poste que tu vas occuper, que Dieu lui-même t'a choisi, comme il va indiquer plus tard. Dieu lui-même t'a choisi pour le roi. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la position. C'est Dieu qui donne la position ou pas. Ça, c'est son affaire. Mais Dieu regarde le cœur. C'est quoi le pensée? Si tu le cherches, et ce refrain est répété à la longue de l'Ancien Testament, j'ai prêché tout un autre message avec ce passage en traçant, pas maintenant. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, peu importe s'il t'a appelé, peu importe si lui-même t'a placé dans la royauté, peu importe les dons, les talents qu'il t'a donnés, si tu l'abandonnes à lui, il te rejettera pour toujours. Pourquoi David parlait tellement fort à son fils? Peut-être nous pouvons trouver une indication dans le livre des Deux Chroniques, chapitre 12. Ça, c'est l'avantage de lire la Bible chaque année, chaque année, chaque année, parce que tu ramasses des choses qui t'aident à comprendre d'autres parties de la Bible, hein? Alors faites-le. Si vous n'avez pas encore commencé, je sais que les programmes sont disponibles, n'est-ce pas? Alors, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 13. Il y a quelque chose d'intéressant. Ici, il parle du fils de Salomon. Mais un petit détail. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait quel âge lorsqu'il devint roi? Qu'est-ce que vous voyez là? 41 ans. Attends un peu. Salomon régnait combien des années? Quelqu'un connaît? 40 ans. C'est-à-dire, Roboam s'était né l'année avant que Salomon ne devienne roi. En soi, ça, ce n'est pas un problème. Salomon, c'était déjà un homme, déjà marié. Il avait plusieurs femmes à ce moment déjà. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la dernière phrase ici de ce verset. Sa mère s'appelait Naama. Et elle était quoi? Ammonite. Souvent, quand nous lisons l'histoire de Salomon et sa chute finale, nous pensons que c'est vers la fin de sa vie qu'il a commencé à se marier avec ses femmes étrangères. Et qu'il a fait la compromission, même dans l'idolâtrie à la fin. Mais la compromission a commencé même avant que David ne prononce ces mots de 1 Chronique, chapitre 28. Quand David a dit à Salomon, « Dieu cherche ton cœur, il comprend tes pensées. » Il savait, David savait qu'il avait déjà une belle fille ammonite. Salomon, tu as déjà commencé une trajectoire dangereuse. Tu as déjà commencé des compromissions. Dieu a un appel sur votre vie. Mais il y a déjà les tendances qui disent Mais papa, vous comprenez. Est-ce que vous avez écouté ça dans le ministère? Quand tu vois un de tes fils dans le ministère qui commence à faire des bêtises et tu le tires les oreilles, et il dit, mais papa, c'est différent maintenant qu'à ton époque. Il y a la phrase que mes étudiants aiment beaucoup. Il y a les réalités sur terrain. Alors, la compromission, c'est nécessaire, c'est essentiel. Vous savez, on aime Dieu, on va construire le temple, on va organiser le pays, on va faire éclater la gloire de Dieu partout. Sa prière sacerdotale, c'était terrible là, dans 2 Chroniques chapitre 7, 6 plutôt. C'est terrible, mais le problème c'est quoi? Salomon, qu'est-ce que tu veux? Au fond, qu'est-ce que tu cherches? Et Dieu est venu lui poser cette question directement. Donc, je crois que vous connaissez l'histoire de Chroniques, chapitre 1. Dieu lui-même va apparaître à Salomon. Il va poser la même question que David a répondu sans que Dieu lui pose la question. David a dit, je veux être dans ta présence à tout moment. Je veux être toujours à côté de toi. Les autres choses ne sont pas importantes. C'est ta présence que je désire. Je veux prendre le refuge sous tes ailes. Je veux être proche à toi. Je ne veux pas perdre cette relation pour rien. Dieu vient à Salomon et il pose la question. Demandez ce que tu veux. Demandez ce que tu veux que je te donne. Et la réponse de Salomon, ce n'était pas mal. Dieu lui-même a dit, ok, c'est bien. En soi, il a demandé quoi? La sagesse. Mais la sagesse, en soi, c'est une bonne requête. Le Nouveau Testament même, Jacques nous dit, si nous manquons la sagesse que nous demandons, que Dieu nous donne, en soi, c'est une bonne requête. Mais regarde la motivation de la requête. Je veux être un bon roi. Je veux, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. C'est une bonne chose. Seigneur, c'est toi que tu m'as placé dans cette position. Je veux bien l'accomplir. Et si pour le moment, je peux parler à mes frères et mes sœurs qui ressentent vraiment un appel au ministère, soit temps plein ou soit seulement pour le service dans l'église en tant que laïque. L'appel de Dieu, la tâche que Dieu te donne ne doit jamais remplacer la relation avec Dieu dans notre vie. S'il faut sacrifier soit l'un, soit l'autre, sacrifier le ministère. Mais ne relâche pas la relation. Je parle de quelqu'un que je fais ce combat. Hein? Je fais ce combat d'avoir le temps personnel avec le Seigneur. Seigneur, je suis en train d'enseigner chaque jour. Le mois de décembre, j'ai enseigné pendant la journée, j'ai prêché presque chaque soir dans des différentes églises. C'était fou. Mais est-ce que le ministère, je veux bien réaliser mon ministère. Je veux bien développer l'Institut biblique à Kisangani. Je veux bien faire le travail que Dieu a placé entre mes mains. Mais quand Dieu vient me poser la question, qu'est-ce que tu veux? Bon Seigneur, tu vois, on a besoin de ceci et cela et les fenêtres vont coûter trop, je n'ai pas cet argent. Seigneur, on doit aussi faire ceci et on ne parle même pas des carreaux. Et le Seigneur dit, arrête, qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'ai eu le choix. Il y a 2-3 semaines, qu'est-ce que tu veux? Et finalement, j'ai éclaté en larmes devant mon papa. J'ai dit, je te veux. Je te veux. Je veux plus de ta présence dans ma vie cette année que jamais auparavant. Je veux être un peu comme Moïse après qu'il est descendu des 40 jours, 40 nuits dans la nuée, dans la présence de Dieu, où Dieu lui parlait directement. Mais c'est quoi sa demande? Montre-moi ta gloire. Mais Moïse, tu as déjà eu des expériences que les autres n'ont pas eues. Peu importe, ça ne me suffit pas. Je veux le voir davantage. Parce que si la présence de Dieu est notre première préoccupation, je ne craindrai rien. Je ne vais pas m'en soucier de ces autres choses. Si Dieu veut que je prêche, que j'enseigne, il va ouvrir la porte. Si il ne veut pas, il veut ouvrir quelqu'un, il va envoyer quelqu'un d'autre, tant mieux, je repose. Hein? Je ne casse pas la tête pour ça. Mais je casse ma tête de connaître sa présence, de vivre dans sa présence. Je fais le combat de mon temps, de libérer ce temps. J'aime les grands matins. 4h30, 5h30, ce sont les heures, les meilleures heures pour moi. À partir des 20h le soir, ne me parle pas où. Mais les grands matins, c'est quand la tête est fraîche. Je veux te connaître. Parce que le désir de ton cœur va aussi déterminer ta fin. La fin de David, c'était de transmettre le message à son fils, le Dieu que j'ai cherché depuis le début. Il s'est laissé trouver par moi. Et si toi tu le cherches, il va aussi te laisser le trouver. Mais Salomon a fait la royauté, la grandeur, sa priorité. Et quand la grandeur, la royauté, la promotion, l'avancement, c'est ce que tu demandes de Dieu, tu vas sacrifier tout pour ça. Il avait déjà commencé à faire les alliances. Si tu veux être un grand roi, avoir beaucoup d'influence, il faut faire les contrats par mariage avec tous ces différents rois. C'est la réalité de notre époque, non? Si tu veux avoir une bonne économie, il faut faire les traites avec les accords avec Tyr et Sidon, les Phéniciens, qui sont vraiment des païens. Si tu veux vraiment avancer et être bien vu, pour la gloire de Dieu, bien sûr, tout sous-entendu, pour la gloire de Dieu, hein, il faut chercher les chevaux d'Égypte, disons, les meilleurs chevaux. Il faut toutes ces autres choses. Et Dieu lui a donné tout ça. Mais quand tu cherches une autre chose que la présence de Dieu, ces choses que Dieu peut te donner vont t'exposer réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Et à la fin de la vie de Salomon, nous avons le livre d'Ecclésiaste. Et tu peux lire chapitre 1, chapitre 2 d'Ecclésiaste, et il dit, c'est quoi l'avantage de la sagesse? Le sage, il est mieux qu'il le saute en quoi? La richesse, j'ai eu. Les projets de construction, chapitre 2 d'Ecclésiaste, j'ai fait des grands projets de construction. Ah, le mariage, on ne parle même pas, j'ai eu les plus belles filles de tout le monde. La joie, le meilleur vin, le meilleur fête, l'ambiance, tout ça j'ai eu. Mais à la fin de sa vie, il pouvait dire seulement, c'est la vanité, il n'y a rien dedans. David ne disait pas ça. David disait, il y a quelque chose à chercher. Il y a quelque chose qui vaut la peine. Salomon a cherché à bien remplir, selon sa compréhension, l'appel de Dieu. Mais sans chercher Dieu, et ça ne marche pas. La vie va toujours terminer en échec. Alors ce matin, Je viens devant vous avec ce défi. Et c'est vraiment le cri de mon cœur. Parce que le cri du début, le cri de ton cœur au milieu, même face aux menaces. Face aux menaces, qu'est-ce que Salomon a fait? Il est devenu un tyran. Il a tué les gens qui l'opposaient. Il devait tout faire pour défendre sa poste de roi. Il a commencé à opprimer son propre peuple. Il ne devait pas, selon la loi, le roi ne devait pas utiliser, exiger le corvée des Israélites. Mais lui, il l'a fait. Pour ses projets, même pas pour le temple, ça c'était déjà fini, pour ses propres projets. Il est devenu un dictateur très méchant. Pourquoi? Son but, c'était la grandeur, la royauté, la reconnaissance. Il était même prêt à aller, s'il croyait ou pas, mais il était prêt à aller auprès des faux dieux pour maintenir la paix avec ses femmes ammonites, moabites, égyptiennes, etc., etc. Il était prêt à tout sacrifier pour la royauté. Pendant que son papa disait, je suis prêt à tout sacrifier pour rester dans sa présence. Ce matin, je vous pose la question, qu'est-ce que tu cherches? Si on peut incliner la tête et prendre ces quelques minutes, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu? Pendant que la tête est inclinée, vous êtes devant le Seigneur. Écoutez, je rentre à psaume 27 et verset 8. Mon cœur dit de ta part. Et je crois que Dieu est en train de parler à travers le cœur de plusieurs personnes ici ce matin. Cherche ma face. Vous avez cherché ma main. Vous avez cherché les choses. Cherche ma face. Est-ce que nous pouvons répondre comme David ce matin et dire, je cherche ta face. Je cherche ta face. Seigneur, ce n'est pas le ministère agrandi que je cherche. Ça, tu peux prendre quand tu veux. Bien que j'ai prié pour la guérison et je continue à prier, mais ça, ce n'est pas ma première demande, ce n'est pas le cri de mon cœur. Le jour que tu veux, tu peux me prendre avec toi, ce n'est pas grave. Mais Seigneur, ce qui est non négociable pour moi, je veux vivre dans ta présence. Je veux te connaître. Je ne veux pas le symbole de ta présence. Là, je peux rentrer à Jérusalem, ce n'est pas un problème. La royauté peut rester avec Absalom, ce n'est pas un problème. Mais moi, je veux la réalité de ta présence. Même sur le champ de guerre, même quand je suis cachée dans la maison au village parce qu'Absalom me poursuit, ce n'est pas grave, dans ces cachettes, je peux connaître la paix, le bonheur, la provision de mon Dieu, même sur le champ des batailles. Psaume 3, il répète cette idée beaucoup, psaume 3. Même quand la multitude encampe contre moi, je dors parce que Dieu me donne des sommeils. Il me donne sa paix. Papa, ce matin, nous voulons te voir. Et je prie que dans le cœur de chacun, si nous sommes au début de notre parcours, peut-être quelqu'un ici qui ne te connaît pas du tout, et eux, ils ont déjà cherché partout dans le monde, ils n'ont pas trouvé la satisfaction. Seigneur, que tu les attires ce matin à toi. Seigneur, pour la personne qui a prié, jeûné, déclaré pour l'avancement, la promotion, et peut-être tu les as donnés, mais ressent encore cette vide dans le cœur. Seigneur, donne-nous le challenge, donne-nous le défi encore ce matin. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Seigneur, que tu relèves de cette congrégation des hommes et des femmes qui vont dire, je cherche ta face. Je cherche ta face. Merci, Seigneur.
Jésus. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi.
Papa, nous voici devant toi. Et je vois plusieurs frères et sœurs qui me rejoignent dans ce cri pour Dieu, Seigneur, ta présence. Prends les choses. Ok, on accepte. Que la maladie arrive, qu'il en soit ainsi. On va prier pour la guérison, mais si tu choisis autrement, tant mieux. Seigneur, si on est marié, célibataire, avec ou sans enfant, Seigneur, tout ça, toi, tu vas en prendre en charge. Comme tu décides dans nos vies, mais Seigneur, ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, manifeste-toi. Même s'ils sont dans le point de désespoir, de dire Dieu m'a déçu parce qu'il n'a pas me donné ceci ou cela. Cette personne rencontre-la avec ta présence ce matin. Pour dire non, c'est toi qui t'es déçu à toi-même. Tu as cherché la mauvaise chose. Manifeste-toi à chacun. Seigneur, peut-être c'est un long moment depuis que certains uns nous avons plié les genoux seulement pour demander ta présence dans nos vies. Quand devons le faire, même après ce culte, même demain matin, que tu viennes, Seigneur, l'encercler avec tes bras et souffler, Seigneur, ton amour pour eux. Seigneur, la manifestation de ta présence fraîche chaque jour et dans ce lieu que tu donnes ta paix, que tu donnes, Seigneur, ta direction, ton orientation, tout ça vient après. Et ta présence. Merci, Papa. Au nom de Jésus.
Amen. Amen.